Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.
Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Palabre en forêt sur Radio Barthès 107 FM. Alors aujourd'hui, malheureusement, on va faire une émission sans Virginie. Donc j'ai donc avec moi Aymeric.
Bonjour.
Et Léa Barré.
Bonjour.
Alors on accueille Léa aujourd'hui qui va nous présenter son projet de création de pépinières forestières d'Écosse. Donc Léa, est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Oui, donc je suis Léa Barré, récemment duchesne. Je me suis mariée cet été. Je suis co-gérante avec ma mère d'une forêt familiale de 1200 hectares sur le Cosméjan. Je me suis installée sur place il y a un peu plus de trois ans. En m'installant, j'ai adapté mon activité à mon lieu de travail parce que je suis passée de créatrice de vêtements à pépiniériste.
Ah ouais, ok.
J'ai démarré ce projet il y a un an et ma pépinière s'appelle donc Pépinière forestière d'Écosse, comme tu disais. Et sinon, je suis maman de deux enfants qui ont 2 et 3 ans. Et ce que j'aime dans la vie, c'est améliorer l'environnement dans lequel je suis. Et j'aime créer du lien.
Ok. Et du coup, quand tu parles d'environnement dans lequel tu es, la pépinière, elle se trouve au sein du groupement forestier de la Somical. Ouais. Qui est du coup, comme tu l'as dit, un massif forestier assez conséquent sur le Cosméjan. Et il y a plein de choses qui s'y passent, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire ce qui s'y passe ?
Ouais. Donc, j'ai installé ma pépinière sur ce massif, comme tu dis, de la Somical. Donc, c'est une forêt familiale qui s'appelle la Somical. Donc, ça veut dire Société de mise en valeur des causses de Lozère.
Okay.
C'est un nom qui date de l'origine de la plantation, entre 1960 et 1968. Cette forêt a été plantée par une usine de pâte à papier du nord de la France. Ma famille avait des participations dans cette usine qui a ensuite été vendue et dont mon grand-père s'occupait. La plantation a été possible grâce au Fonds forestier national,
ouais.
Qui encourageait après la guerre la plantation de forêts grâce à des prêts remboursables sur des coupes de bois. Autrement dit, plusieurs dizaines d'années après, ces prêts étaient remboursés. Et c'est principalement du pin noir d'Autriche qui a été planté.
Ok.
C'est pas tout à fait vrai. À l'origine, on avait planté d'autres essences, de l'épicéa, du mélèze, d'Europe, du Japon, etc. Mais dans les regarnis, on a remis que du pin noir,
okay.
Parce que c'est ce qui avait marché. Et donc ensuite, la gérance a été assurée jusqu'à la fin du remboursement par la DDT.
Ok.
Les premières coupes ont été réalisées en 1994 avec l'ouverture des cloisonnements sur la forêt, donc ouais. Sur les 1200 hectares.
Est-ce que tu peux juste nous expliquer rapidement ce que c'est qu'un cloisonnement ?
Ouais, bien sûr. Donc on exploite grâce à des machines, à des abatteuses.
Ouais.
Pour faire passer des machines en forêt, on a coupé une ligne de pin sur 5 ou 6 en fonction des endroits. Ça fait on appelle ça des cloisonnements qui font entre 15 et 17 mètres
okay.
De largeur. Et ça permet aux machines de circuler dans ces cloisonnements et d'attraper les arbres d'un côté et de l'autre pour ne pas circuler dans la forêt, en fait. Okay.
Donc du coup, le sol est préservé partout ailleurs, sauf sur les cloisonnements qui sont un peu sacrifiés pour l'exploitation.
Exactement.
Ça permet une bonne préservation du sol.
Ouais, c'est ça.
Ok. Et du coup, après l'ouverture des cloisonnements, il y a eu d'autres choses qui ont été faites.
Donc il y a eu une première éclaircie, et je crois que c'est à peu près à ce moment-là que ma mère a repris la gestion.
Ok.
Donc la DDT, enfin l'État a été remboursé, la DDT a quitté la gestion, et ma mère a repris. Accompagné d'un gestionnaire forestier qui est basé en Ardèche, qui s'appelle Alain Givor,
okay.
Enfin, qui ne travaille plus maintenant, mais qui, à l'époque, travaillait chez nous jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ensemble, ils ont appliqué la gestion à couvert continu, dite ProSilva.
Ouais. Donc du coup, c'est un mode de gestion où il n'y a pas de coupe à blanc, c'est ça ? Où il y a toujours un couvert continu qui est conservé dans le massif forestier ?
Ouais, c'est ça.
Ok.
Et très rapidement, la question de la pérennité et de la résilience de la forêt s'est posée avec Alain Givor, puisque la monospécificité de la forêt, donc qui est principalement en fait de pin noir, induit une grande fragilité.
Ah ouais.
Ouais. Donc depuis 2015, progressivement, on a entrepris des travaux de diversification. En fait, je dis on, mais moi, je suis gérante depuis 2018. Okay. Donc, je suis arrivée, les travaux de diversification avaient déjà commencé. Et le dernier en date, qui est le plus important, c'est passé l'hiver dernier et l'hiver d'avant, où on a planté 16 000 arbres, majoritairement des sapins méditerranéens et des hêtres,
okay.
mais aussi des chênes, des tilleuls, des érables, planes et sycomores, des cèdres, des mélèzes, des alisiers terminales, je ne sais pas si on accorde, terminaux, et voilà, 16 000 plants sur à peu près 60 hectares de la forêt,
okay.
donc, ce qui peut paraître pas beaucoup sur les 1200, et en même temps... Voilà, on se dit que c'est peut-être...
ouais, c'est déjà énorme.
C'est peut-être pas le dernier projet de plantation qu'on aura.
Ok, donc tout ça pour essayer de diversifier un peu
voilà.
la forêt qui est
pour... Avant, ça, ouais. Avant ça, on avait aussi d'autres manières de diversifier avec des petits enclos où on plantait une petite dizaine d'arbres.
Ouais.
On comptait sur ces arbres pour essaimer, donc dans 60 okay. ans.
Ouais.
Voilà. Donc on a un peu monté en force avec les 16 000 arbres, protégés individuellement pour le coup.
Ok. Parce que du coup c'est ça, ouais, les enclos avant ils étaient, c'était des petites zones où il y avait des plants qui étaient mis et c'était clôturé pour pas que le gibier puisse aller le manger, c'est ça
okay. Ouais, dans des zones choisies, avec un puits de lumière, okay. Une terre suffisamment riche, hop, okay. on fait un petit enclos, 10 arbres, et on en a 100 sur la propriété actuellement.
Okay.
Et donc ensuite, c'est le plan de relance qui nous a permis de faire ce gros projet de 16 000 arbres.
Okay.
Et donc là, c'est un peu plus conséquent, et on a planté à la fois du bois... pour le bois, c'est-à-dire pas mal, enfin des résineux, une majorité de sapins méditerranéens pour le bois, mais les feuillus, on compte pas tellement dessus pour le bois, c'est plutôt vraiment pour la diversification pure, pour la résilience, pour
ok,
voilà.
Et donc pour revenir sur l'histoire de la pépinière forestière, c'est quoi un peu l'origine du projet? Pourquoi tu développes ça sur le Cosmejan?
Alors des pépinières, il en existe. Des pépinières forestières, pardon, il n'en existe aucune en Lozère.
Okay.
Et alentour, c'est difficile aussi. Même dans le Gard, j'en connais pas. Dans l'Aveyron, le Cantal, j'en connais quelques-unes. Mais enfin, voilà, c'est assez rare. Alors qu'avant, c'était quand même très répandu dans chaque région, dans chaque département. Il y avait la pépinière forestière locale. Donc nous, pour se fournir en plants, on est allé dans l'Allier, on est allé... en Provence. Donc, enfin, ça m'a un peu frappée de me dire on va se fournir aussi loin, alors que en fait on pourrait les produire sur place. Et ce qui m'a frappée aussi, c'est que quand j'ai cherché un peu à me former là-dessus, j'ai trouvé aucune formation. Il n'y a pas de formation de pépinière en pépinière forestière.
Ok.
Donc ça montre un peu peut-être pourquoi il n'y en a pas, il n'y en a plus, quoi. Et donc pourquoi moi j'ai voulu créer une pépinière forestière, je voulais une activité qui soit en lien avec cette forêt, une activité utile et concrète, si possible au service de la forêt, et qui soit aussi un peu rémunératrice pour moi. Et donc je me suis lancée là-dedans.
Ok. Et du coup ça fait combien de temps que la pépinière existe?
Alors, ça fait... J'ai créé la pépinière il y a un an, en okay. septembre 2022.
Ok. Et quels sont, du coup, les types de plants que tu produis? C'est des plants forestiers, fruitiers? J'imagine qu'il y a pas mal de diversité.
Ouais. Alors, cette année, donc, c'est ma première année de production, comme ouais. je disais. J'ai une majorité d'essences bocagères qui sont destinées aux plantations de haies.
Ok.
Type cornouiller, amélanchier, poirier, pommier sauvage, nerprin, sorbier, cormier, groseillier, etc. Et aussi quelques plants forestiers, donc érable, épicéa, sapin de Nordman, chêne pubescent, chêne sessile. En fait, cette première année, j'ai récolté les graines moi-même. Pour avoir des espèces et des individus adaptés à mon sol et à okay. mon climat. et j'ai récolté les graines selon le cahier des charges de végétal local, qui assure une adaptation mais aussi une diversité génétique suffisante des récoltes. Donc je ne suis pas encore labellisée et je devrais passer en commission en septembre pour être labellisée. Donc voilà, peut-être que cette année je vendrai des plants végétal local, mais c'est pas encore officiel.
Ok. Et du coup, en fait, ils sont adaptés au contexte du COS parce que tu ramasses les graines sur les zones où tu souhaites après implanter ces plants-là.
Oui, l'idée, c'est de vendre localement. Donc oui, sur les COS, mais même je récolte un peu aussi sur les bords de gorge, autour de moi. Mais comme on fait pas mal de voitures ici, disons un rayon de 40 km okay. Autour, quoi.
Ok, et du coup, est-ce que ces plants ils sont adaptés au contexte du COS uniquement ou est-ce qu'ils peuvent aussi être utilisés pour des zones comme les vallées Cévenoles ou la Garrigue?
Ouais, on m'a dit qu'il y a plusieurs années, plusieurs décennies même, on faisait une distinction des pépinières entre sol acide et sol calcaire.
Ok.
Mais qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, à part si l'essence ne supporte pas le calcaire, ouais. Comme c'est le cas du châtaignier par exemple, on pense aujourd'hui qu'il n'y a pas d'impact à transplanter un arbre qui grandit en sol calcaire dans un sol acide et okay. vice-versa.
Ok, ça marche. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment du coup on produit un plant, donc que ce soit un plant bocager ou un plant forestier, parce que j'imagine du coup tu as commencé la production il y a un an,
ouais.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui tu as des plants qui sont prêts à être
ouais.
Réimplantés, je sais pas si c'est le bon terme, ouais. Ou est-ce qu'il faut encore attendre un peu les étapes clés de la production d'un plant
Ouais bien sûr, soit je récolte la graine, soit je l'achète, là cette année j'ai tout récolté, ensuite je la mets en stratification.
Okay.
Donc, pour lever sa dormance, c'est-à-dire qu'on la met dans des conditions d'humidité, de chaud ou de froid dont elle a besoin pour germer.
Okay.
Ensuite, la graine est semée, soit directement en pleine terre, soit en godet. Et enfin, elle peut être repiquée ou laissée en place jusqu'à la vente du plant en automne-hiver.
Okay.
Un feuillu peut, dans les meilleures conditions, être vendu dès le premier automne.
Okay.
Donc, il aura 6 mois de vie.
Il fait quelle taille à peu près du coup ?
Donc ça c'est réglementé aussi par la DRAF, les tailles autorisées à vendre les plants.
Okay.
Donc tu as un diamètre minimum par essence,
okay.
Une hauteur minimum aussi par essence. Et après en fonction de ce que tu veux en faire, par exemple si tu veux faire du porte-greffe, si je te vends du poirier ou du pommier que tu veux faire un porte-greffe, ce sera le diamètre qui va t'importer,
okay.
Entre 0,5 et 0,5 millimètres, non,
centimètres.
0,5 centimètres, ouais. Et 1 centimètre. Si tu veux que ce soit un arbre de haie, c'est plutôt la hauteur qui va t'importer.
Okay.
Donc ça, c'est assez réglementé par la DRAF, ce que tu es autorisé à vendre. Et voilà, après ça dépend du client ou okay. de la personne qui plante.
Ça marche.
Mais donc, oui, entre un feuillu qui peut pousser en un an et un sapin qui est plutôt gardé en pépinière au moins 3 ans, ouais, 4 ouais. ans, voilà, ça dépend de l'essence. Et,
okay.
Moi, je suis une pépinière naisseuse.
Okay.
Je ne garde pas les plants pour les faire grandir.
D'accord.
Il y a des clients qui s'intéressent d'avoir des arbres déjà adultes qui font 4 mètres de haut. Moi, je n'aurais pas ça dans la pépinière. Ce sera okay. vraiment du jeune plant, soit du sion, donc d'un an,
okay.
soit du jeune plant, 2 ans, 3 ans,
okay.
4 ans maximum.
Ça marche. Et je crois que tu l'as déjà dit, mais les périodes, est-ce qu'on peut faire des plantations toute l'année ou est-ce qu'il y a des périodes à privilégier pour réaliser les plantations de plants qu'on peut du coup récupérer en pépinière?
Ouais, l'hiver définitivement,
ouais.
L'automne-hiver est,
ouais.
est la période où on peut planter. Enfin, faut surtout pas essayer de planter en été.
Ouais, j'imagine.
Par contre, moi je dirais même le plus tôt dans l'automne. Enfin, en fait, on a les plants quand on les a en racines nues, on les a quand les feuilles sont tombées.
Ok.
Donc, ces dernières années, ça tombe mi-novembre. Enfin, ouais, début novembre ou plus tôt, mais ouais. Voilà, mi-novembre. Et moi, je pense que c'est important de les planter très rapidement.
Okay.
Parce que comme ça, ils profitent un peu des pluies d'hiver pour s'installer, pour s'enraciner pendant l'hiver.
Ouais.
Et voilà, plus on les plante tard dans la saison, plus ils devront s'adapter en même temps que faire les feuilles, en même temps que donner de l'énergie un peu partout. Et c'est
okay.
Voilà, le plus tôt c'est le mieux. En racine nue surtout, et en godet c'est un peu plus flexible.
Ouais.
Donc en godet avec de la terre, parce que c'est un peu plus autonome. Mais bon, c'est le plus tôt et le mieux quand même.
Ok, ça marche. Et du coup, au sein de ta pépinière, est-ce que tout le monde peut acheter des plants ou est-ce qu'il faut être professionnel? Et comment il faut faire si demain je veux aller acheter des plants dans ta pépinière?
Donc, ouais, en effet, je m'adresse un peu plus aux professionnels. Que ce soit gestionnaire forestier, propriétaire forestier, planteur, ou alors aux agriculteurs ou aux associations qui favorisent la plantation de haies, type copage, qu'on connaît en Lozère. Tout simplement pour des questions de quantité.
Ouais.
Si c'est des particuliers qui ont un projet de plantation à grande échelle, je dirais un minimum de 50 plants.
Okay.
Je peux fournir un minimum de 50 plants.
Ok.
Voilà.
Peut-être qu'on peut dire un mot sur du coup, la vente de plants forestiers en France, parce qu'il me semble qu'il y a une question d'origine génétique qui doit être contrôlée, si je ne me trompe pas.
Oui, en effet. Quand on plante en forêt, on cherche souvent du matériel forestier de reproduction, on appelle ça MFR, simplement parce que c'est des graines qui sont identifiées, sélectionnées ou testées pour être de bonnes graines pour la forêt. Les critères en forêt, c'est du bois qui est droit, sans branches, et voilà. Alors que les critères pour la haie ou pour le jardin, c'est différent. Donc, du coup, on a identifié ces arbres, ou on les a sélectionnés, ou on les a testés. Donc ça, c'est les qualificatifs MFR, pour faire des bons arbres forestiers. C'est ce qui encourage beaucoup à acheter les graines à des producteurs de graines qui sont Villemorin ou la sécherie de la Joue, les uniques. et pourtant, c'est les graines pour lesquelles on peut être subventionné pour planter.
Ok.
Si on veut des subventions pour planter, on est obligé d'acheter du MFR. Donc c'est comme ça. C'est okay. Un peu. Moi, je dirais qu'il y a d'autres critères aujourd'hui que juste sélectionner, tester, qui sont importants. Par exemple, adapter à son milieu. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis penchée et intéressée très rapidement au label végétal local. Et j'ai l'espoir qu'un jour, je pourrais vendre du forestier qui n'est pas MFR.
Ok.
Parce qu'on reconnaît des critères d'adaptation des plants, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que cette année, par exemple, j'aurai pas de MFR. L'année prochaine, je suis en fait obligée d'en avoir si je veux être pépinière forestière.
Okay.
Donc j'en achèterai. Je suis en train de voir si je peux en récolter moi-même aussi.
Okay.
Mais c'est un peu long comme process. Mais peut-être qu'un jour, je récolterai du MFR aussi.
Ok, super. Et du coup, pour finir, est-ce que tu peux nous parler un peu des projets de développement pour cette toute nouvelle activité? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver à court ou moyen terme au sein de la pépinière?
Ouais. J'ai démarré cette année sur un terrain relativement petit, de 1000 mètres carrés. Pour l'instant, ça m'a suffi. Peut-être que ça me suffira encore l'année prochaine. L'idée, c'est de trouver un peu du terrain en fonction du besoin. Donc, pour l'instant, pas tellement. Mais voilà, j'imagine que dans 3 ans, j'aurai besoin d'un peu plus de surface. J'ai obtenu l'autorisation aussi de construire une serre pour démarrer mes plants plus tôt dans la saison. Ça va certainement se faire, mais je ne sais pas très bien dans quel délai, peut-être 1 an, 2 ans.
Okay.
C'est déjà une grosse évolution pour moi.
Un beau projet qui arrive. Et pour conclure, est-ce que tu as un petit mot forestier à ajouter? On le demande à chacun dans notre billet, donc c'est la petite touche personnelle. C'est le moment où tu peux te lâcher et nous dire ce que tu veux, quand même, avec un lien avec la forêt.
Ouais. C'est pas forcément forestier, mais c'est plutôt un peu accessible à tous. Je voudrais encourager les gens à semer des arbres, prendre l'habitude de pas mettre les noyaux, les pépins à la poubelle, mais quand on se balade, ramasser des cônes de résineux, des grappes de samare, des graines de tilleul, les mettre dans la poche et les disperser plus loin dans une autre forêt, dans une haie ou même chez vous dans votre jardin. Que ça profite un peu aux animaux ou à faire pousser des nouveaux arbres, mais qui seront plus bénéfiques qu'à la poubelle. Et sinon, pour un mot, j'ai une citation qui vient de mon grand-père, du coup, de mes origines forestières, que je trouve adaptée à la forêt, qui dit « Ce qui compte, c'est ce qui dure, et ce qui dure, c'est ce qui sait s'adapter ».
Mais écoute, Léa, merci beaucoup d'être venue nous présenter ton projet et on te souhaite plein de bonnes choses pour le développement de la pépinière et à bientôt, j'espère.
Merci de votre accueil et à bientôt, j'espère aussi.
Thank you.
vient d'écouter Jonathan Bree avec le titre You're So Cool. Et maintenant, on accueille Aymeric Sulmon, qui est toujours garde-moniteur au Parc National des Cévennes. Et on te retrouve pour ta rubrique Plantes et animaux des bois.
Plantes et animaux des bois.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers des écharpes de brume.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Salut, salut Aymeric. Du coup, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
J'ai essayé de me caler à un thème qui fait écho à ce qu'on vient d'entendre sur la pépinière, le projet de pépinière sur le Causse. Et notamment parce que je connais un tout petit peu ta forêt dont tu nous as parlé, parce que j'ai participé il y a 2 ans au fameux Silvo Trophée que vous avez remporté. Du coup, je me permets une petite parenthèse sur ce Silvo Trophée. Et c'est donc cette forêt de pins noirs, elle a été récompensée, même si c'est effectivement une forêt d'un pin exotique et qui est plantée de manière très régulière et tout ça. Et moi, ce que j'avais mis en avant de mon point de vue, c'est que l'originalité de cette forêt, c'est qu'elle elle permettait à un cortège très riche de plantes steppiques de se maintenir parce que c'est pas une forêt extrêmement dense. Et elle répond bien à cette espèce de... au contraire, elle casse un peu l'image qu'on a d'une forêt toute noire, sombre et sans végétal dessous.
Ouais.
Et c'est ce vers quoi il faut imaginer la forêt de demain, c'est qu'elle répond à plusieurs enjeux, quoi. Et une forêt, c'est pas que des bois. En fait, les zones ouvertes dans une forêt font partie intégrante de l'équilibre de la forêt. On l'apprend de plus en plus qu'il faut tout dans une forêt pour qu'elle fonctionne bien. Et c'était vraiment ce qu'on a trouvé de sympa dans cette forêt. Bon, c'était la petite parenthèse. Et puis, il y avait plein d'espèces sympas dans cette forêt. J'en passe. Il y avait effectivement une drôle de plante qu'on appelle sapot de Vénus. On ne sait pas comment elle a atterri là, mais elle est là. C'est une originalité. Mais il y avait du saxifrage des Cévennes, il y avait du sénesson de Gérard, de ceratule à tutu genu, enfin des belles raretés. Et puis la saponaire à feuilles de pâquerette, qui est une des raretés françaises et qui est présente autour de Fretma. Et puis, j'en viens à des plantes qui fleurissent actuellement, et c'est pour ça que j'en parle maintenant, la gentiane ciliée, qui est présente dans ce secteur. Et c'est une gentiane qui est bleue, une petite gentiane bleue, très discrète, et que je vous invite à chercher autour de chez vous, si vous avez des petites pelouses un peu sèches, mais qui s'humidifient en hiver, ou alors des éboulis fins de versant nord. Et vous allez voir cette jolie croix bleue, avec des cils sur les bords de la croix, une très belle croix. Ça fait 3-4 cm de diamètre, cette fleur. C'est discret, mais c'est à la fois rare et très, très remarquable. Et donc, il faut la chercher autour de Fretma, je suis sûr qu'elle y est.
Gentiane de ?
Gentiane ciliée.
Ciliée.
Voilà. Fait partie de ce cortège de plantes qui choisissent quasiment la période la plus difficile de l'année pour fleurir. Je pense notamment aussi à la colchique.
Ouais.
Qui fait partie de ces fleurs qui fleurissent maintenant. Il y a d'autres espèces, je pense que vous en connaissez. Là, peut-être il y a une orchidée que vous ne connaissez pas, l'aspirante d'été, mais si vous êtes dans les Cévennes, vous avez une sorte de mini asphodèle qu'on appelle la scie d'automne qui fleurit maintenant, en plein cœur de l'été. Et moi, je trouve ça un peu fascinant avec ces espèces qui sont à contre-courant, quoi. Et qui fleurissent à d'autres périodes. Du coup, à parler de ces espèces, j'ai évoqué le colchique. Le colchique n'a rien à voir avec une plante, entre guillemets, forestière. Hein. C'est bien une plante de prairie, colchique à la fin de l'été.
Je ne vais pas la chanter.
Mais, quitte à parler de la colchique, cette plante, elle est tristement célèbre parce qu'elle a causé de graves accidents de récolte.
Okay.
Je sais qu'il y a plein de gens qui récoltent de l'ail des ours.
Ouais.
Certains d'entre nous, en Cévennes d'ailleurs, ramassent de l'ail des ours, mais en fait, ils ramassent de l'ail victorial. Ou des fois, ils ramassent les deux, on en avait déjà parlé. Mais il faut faire très attention quand on ramasse des plantes sauvages, de toujours identifier, mais individuellement, chaque plant qu'on ramasse, parce qu'il y a eu un cas grave en Allemagne de récolte de gens qui pensaient avoir ramassé, mais peut-être trop vite, de l'ail des ours, et dedans il y avait quelques feuilles de colchique. Et si tu te fais quelque chose avec ça, ça peut être mortel. Ça a été le cas. Voilà.
Okay,
la colchique est donc très toxique, et elle est facile à reconnaître évidemment quand elle est en fleur, puisqu'elle fleurit maintenant. Et si vous avez fait gaffe à la fleur, il y a 0 feuille avec. Est-ce que vous avez déjà vu les feuilles de la colchique?
Non, jamais.
Et on n'y fait jamais gaffe, mais en fait, il faut revenir au printemps suivant, puisque les feuilles sortent à partir de mars-avril. C'est des trois grandes feuilles très larges, okay, qui peuvent être en mélange, justement, peut-être avec de l'ail des ours. Donc là, c'est là où il faut faire gaffe. Et au centre de ces trois grosses feuilles qui sortent du sol, eh ben, on a une espèce de d'œuf, enfin, ce qu'est le fruit, okay, du colchique, qui sort là, qui ressemble tout à fait au fruit de l'iris. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Et vous imaginez un fruit d'iris collé entre trois grandes feuilles, et vous avez le colchique au printemps,
okay,
que tout le monde passe dessus en se demandant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est déjà en fruit. Et en fait, c'est que quand la fleur de la colchique est fécondée, le pollen voyage, va sous terre et constitue un fruit en préparation qui va être sous terre et qui sortira au printemps suivant.
Okay.
Il met un certain temps à sortir. Ça, c'était le petit détail botanique de la colchique. Et qui dit colchique, je fais un petit transit assez inhabituel avec le safran. On pourrait confondre, il ne faut surtout pas confondre évidemment, parce que le colchique, toutes les parties de la plante sont toxiques.
Mmh.
C'est une plante très médicinale, hyper intéressante à plein de points de vue, mais donc il faut être médecin pour l'utiliser. Je ne vous donnerai pas toutes les propriétés, je vous regarderai, c'est hyper intéressant. Mais à ne pas confondre avec safran. Et du coup, je vous ai proposé un moyen mnémotechnique, comme on dit, colchique. On peut dire col 6, c'est-à-dire il y a 6 étamines à la colchique.
Okay.
Alors que le crocus, on va dire croacus,
okay,
il y a trois étamines. ça peut-être rentrer. Mais si jamais il y a de la colchique qui pousserait au milieu de votre petite culture de safran,
mm-hmm,
il ne faudrait pas les confondre. Enfin, okay, c'est quand même assez différent. Voilà, 6 étamines à la colchique et 3 au crocus.
Okay.
Voilà, ça c'est pour se rappeler. Et comme le crocus est devenu un peu une plante de plus en plus cultivée, notamment en Cévennes, il y a des grosses producteurs,
ah ouais,
de safran. Il y en a un très important du côté de Saint-Hippolyte. Et c'est une culture qui est justement hyper adaptée à ce changement climatique, mmh, puisque ça a besoin de sol peu encombré par l'herbe. Donc les climats secs, ça lui convient très bien. Et il y aurait plein de choses à raconter. Pourquoi ça s'appelle crocus? Bon, ça vient d'un certain... J'aime bien fouiller dans la mythologie grecque parce qu'on y trouve plein de choses intéressantes. Alors, Crocos, d'où vient le nom de crocus? C'était un ami d'Hermès. On va comprendre pourquoi derrière. Il est tombé amoureux de la nymphe Smilax. Mais en fait, c'était un amour impossible. C'est toujours impossible, les amours grecs. Ça finit toujours mal. Et ils sont tous les deux transformés en fleurs. Alors, crocos, évidemment, crocus, un safran. Entre guillemets, le safran, c'est aussi une espèce réputée aphrodisiaque. Donc, ça, c'est peut-être un espèce de... Il y a toujours un lien entre la mythologie, souvent, et les propriétés, mmh, des plantes. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Et la nymphe Smilax, c'est une nymphe qui est sans doute magnifique. Et le Smilax, c'est l'autre nom latin de la salse pareille. La fameuse, okay, herbe des schtroumpfs. Le schtroumpf n'existait pas à l'époque de la mythologie grecque. En revanche, les feuilles de la salse pareille, je ne sais pas si vous avez vu, c'est des feuilles en cœur.
Ah ouais. Mais c'est, ça pique, ça, non?
Mais c'est un cœur très piquant.
Ouais.
Très piquant. Et j'aime bien, du coup, ce lien qu'il y a entre la mythologie et les plantes, ouais, derrière, tu vois. Et voilà, donc la salse pareille, du coup, on revient à des plantes beaucoup plus forestières. Malheureusement carrément adapté au changement climatique, mais très encombrante dans, mmh, les forêts. Heureusement, je pense pas que tu en verras, parce que c'est pas une plante qui aime trop le calcaire, c'est,
ouais,
plutôt une plante du maquis.
Ouais,
c'est ça. Elle arrivera pas tout de suite sur les côtes, ou alors vraiment il faudra qu'il y ait des gros changements, mais non, c'est plutôt une plante qui est problématique dans les maquis, donc sur silice,
okay,
et qui se mélange à brouillard arborescent, au chêne vert et tout ça pour produire une végétation totalement impénétrable. C'est vraiment, on ne peut pas traverser...
Je crois que c'est le cauchemar des forestiers,
ouais,
cette plante. En zone méditerranéenne, c'est horrible.
Bah oui, c'est vraiment... c'est des grandes lianes pleines de piquants,
ouais,
et très très denses. Il y a vraiment pas moyen. Du coup, ça rend les forêts aussi très inflammables parce qu'elles sont, ça crée une connexion entre le houppier et la base. Voilà les petits détails sur la salse pareille. Qu'est-ce qu'on aurait à te dire? Bon, le safran, du coup, il y a un lien safran-salse pareille. C'est ce que j'aime bien, c'est quand tu parles en mythologie grecque, tu parles dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'il y a à dire sur la salse pareille? Bon, l'herbe de Schtroumpf, tout le monde. D'où ça vient, salse pareille? C'est un mot espagnol, salsa parilla, qui veut dire ronce entraille. Okay. C'est amusant. La sarsa, c'est la ronce, et la parilla, c'est la treille. Et ça protège de plein de trucs, notamment la syphilis, c'est encore un lien vaguement avec de pas mal de maladies de peau. Donc les schtroumpfs ne devaient pas avoir de maladies de peau, mais ils avaient la peau bleue en échange. Voilà les petits... Et du coup, je reviens quand même au safran, parce que je trouve ça assez fantastique. Les Égyptiens, et notamment Cléopâtre, enfin, c'est ce qu'on raconte, ce qu'on trouve dans les livres. Je pense que Cléopâtre avait d'autres choses à faire que de faire des eaux de toilette, mais elle avait soi-disant une autre toilette qui s'appelait le kifi, et qui était fait à base de safran, de miel et d'autres plantes, et qui est devenu un encens sacré par les Égyptiens. Et on raconte que ça conduit vers le sommeil, ça éclaire les rêves, apaise les tensions quotidiennes et amène calme et quiétude à ceux qui le respirent. Il y a peut-être d'autres choses, hein, genre des drogues avec, hein, on ne sait pas trop, dans cette espèce de kifi. Mais ce qui est vrai, c'est que le crocus a de véritables vertus calmantes et anti-stress.
Okay.
Et donc un peu de safran dans la nourriture, ça ne fait pas de mal, ça colore. C'est certes très cher, mais bon, on en met très peu, hein, des microgrammes. Voilà, c'était pour finir sur cette idée de safran, de salse pareil, de colchique. On a parlé de trois plantes, du coup.
Trop bien.
Il n'y en a qu'une qui est vraiment forestière, mais il y en a deux qui sont pas loin de la forêt. Puis comme les prés, c'est aussi, entre guillemets, indispensable à la forêt.
Ouais.
Parce qu'il y a plein d'espèces qui vont entre l'une et l'autre. J'aime pas trop séparer. Du coup, je parle de toutes les plantes, je parle pas que des plantes.
Mais c'est super, ça ouvre un peu le sujet.
Voilà.
Trop bien.
Et bien, à une prochaine.
Merci beaucoup, Aymeric.
À bientôt.
Merci à tous et à bientôt sur Radio Barthas 107FM.
Merci.
Palabre.
En forêt.
L'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs.
Avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthas
107FM. Au cœur de la forêt, à 7h30.